Il est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 3. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, affirme l'apôtre Paul, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, la réaction de Dieu au péché qui s'attache à toute l'humanité, à tous les hommes, en quelque sorte, c'est de prendre sur lui la tâche de les sauver. Et sa méthode a été d'envoyer son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le Fils de Dieu étant sans péché, lui seul est, on peut le dire, qualifié pour nous sortir de là. Il était venu dans une chair semblable à celle du péché. C'est la, en fait la description de l'incarnation de Jésus-Christ. Donc il prend un corps humain et il se lie à l'humanité. Et dans le verset que je viens de lire, nous voyons en fait de quelle manière il est devenu chair. Et l'accent est bien mis sur sa qualité de fils de Dieu, par conséquent d'homme sans péché. Il est dans la chair parce qu'il a un corps, parce qu'il est incarné, mais il reste le fils de Dieu et donc demeure sans péché. Cependant, il possède un corps, il possède une chair semblable à celle du péché. Et ainsi, il se trouve très étroitement uni à l'humanité comme sauveur du monde, parce qu'il s'est fait semblable en quelque sorte à l'homme. La raison d'être de son incarnation, nous le voyons dans Hébreux 10:12, comme un sacrifice pour le péché. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste va dire, voici, en le voyant arriver, en voyant le Seigneur Jésus arriver vers le Jourdain, là où il baptisait, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est un sacrifice pour le péché. Et c'est l'œuvre de la croix qui est résumée, cela. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix en mourant pour chacun de nous. Le Fils de Dieu doit faire l'expiation pour nos péchés. Toute l'humanité, tous les hommes de chair, tous les hommes charnels pèchent contre la loi divine. Donc ils ne peuvent pas établir la justice de Dieu. Et leur châtiment, c'est d'être loin de Dieu. C'est d'être perdu loin de Dieu, ne sachant comment se mouvoir. Donc en venant dans le monde, le Seigneur Jésus va prendre cette forme d'homme, cette chair semblable à celle du péché, et donc il s'unit parfaitement à l'humanité, et il s'unit si parfaitement à l'humanité charnelle qu'elle a été punie pour son péché dans sa propre mort à la croix. Jésus n'avait aucune raison de souffrir, car il est sans péché. Pourtant, il souffre parce que il prend une chair semblable à celle du péché. Il devient, en fait, la tête, la nouvelle tête de l'humanité. Comme Adam a été la tête de l'humanité naturelle, le Seigneur Jésus devient tête de l'humanité spirituelle. Et il prend maintenant toute l'humanité avec lui dans sa souffrance. Il est puni pour nos péchés, pour notre iniquité. Et là, le passage d'Ésaïe, du chapitre 53 d'Ésaïe, est très clair. Donc, comme sacrifice pour le péché, comme cet agneau qui ôte le péché du monde, cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors Christ souffre pour quiconque est dans la chair. Il a condamné le péché dans la chair. Lui qui était sans péché a été fait péché pour nous. Et c'est tout le mystère des trois heures sombres. Des trois heures sombres à la croix où il a été abandonné parce qu'il a été fait péché pour nous. Donc il ne pouvait plus avoir cette communion avec le Père puisqu'il était péché. Le Seigneur Jésus, en quelque sorte, a réellement mis le péché à mort dans sa chair. Dans sa mort, en quelque sorte, ce ne sont pas seulement nos péchés qui sont jugés, mais le péché lui-même. Aussi, à cause de cela, le péché n'a plus de pouvoir sur tous ceux qui sont unis à l'amour du Seigneur et donc ont en conséquence condamné le péché dans leur chair. En conclusion, on peut dire que la libération de la pénalité et de la puissance du péché, Dieu l'a accomplie à la croix, dans la croix de son Fils. Et maintenant, il donne ce salut à tous les hommes, afin que quiconque veut l'accepter soit sauvé. Personne n'en est exclu. Personne n'en est exclu. Quiconque va croire. Quiconque, peu importe sa race, sa nationalité, son âge, sa richesse ou sa pauvreté. L'essentiel, c'est d'être un homme, un être humain de la descendance d'Adam, pour bénéficier de cette œuvre de Jésus-Christ et de rentrer dans cette œuvre par la foi. J'aimerais encore rappeler que l'homme n'est pas régénéré, c'est-à-dire rendu vivant, en faisant quelque chose de spécial, mais en croyant au Seigneur Jésus, en croyant au Seigneur Jésus comme à son Sauveur. Il est dit dans Jean 1, versets 12 et 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Sauveur sont nés de Dieu et par conséquent sont ses enfants. On ne devient pas enfant de Dieu par le baptême, on devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La régénération ou la vie nouvelle, c'est le minimum de la vie spirituelle. Ça va être un fondement sur lequel toute notre vie ultérieure va s'édifier. Et on ne peut pas parler de vie spirituelle, ni s'attendre à grandir spirituellement s'il n'y a pas eu la régénération. Parce qu'on n'a pas la vie dans notre esprit. On ne peut pas. Si nous n'avons pas la vie, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et la vie, nous l'avons par la foi, en croyant, uniquement en croyant. On peut très bien faire le bien, on peut très bien adorer Dieu, chanter des cantiques, lire la Bible, la connaître, mais ça ne servira strictement à rien. Nous essayons de faire ce que Dieu lui-même ne peut pas faire quand nous essayons de réformer ou de réparer la chair. Donc il est vraiment vital que chaque croyant sache de façon certaine, sûre, qu'il a été régénéré et qu'il a reçu une vie nouvelle. Et il faut bien pour chacun de nous que nous voyons cette chose-là, que la nouvelle naissance n'est pas une tentative de raccommoder la vieille chair ou de la transformer en vie spirituelle. C'est impossible. C'est impossible. Par contre, c'est recevoir une vie qu'on n'a jamais possédée, qu'on ne pouvait pas posséder auparavant. Parce que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut percer les mystères spirituels. Il ne peut pas goûter la douceur céleste du royaume de Dieu. C'est impossible. Et la destinée de cet homme-là, c'est d'attendre la mort et le jugement et rien d'autre, et c'est ce qui lui est réservé. Donc, chacun de nous avons à savoir si nous sommes des vivants ou si nous avons le nom de vivre, mais que nous sommes morts. Il est essentiel qu'une personne qui est née de nouveau, qui est régénérée, comprenne ce qu'elle a reçu par la nouvelle naissance. Et le deuxième point, ce qu'elle traîne encore avec elle de ses avantages, entre guillemets, naturels. Parce que si nous ne savons pas faire cette différence entre cette nouvelle naissance que nous avons, cette nouvelle vie que nous avons reçue, qui est totalement étrangère à l'ancienne vie, ce qui est la vie de Dieu, et puis notre vie ancienne, notre vie naturelle, si nous ne savons pas faire la différence, eh bien nous allons tantôt vivre de notre vie naturelle, parce que c'est celle que nous connaissons le mieux, et puis tantôt essayer de vivre de quelque chose de surnaturel, et en pensant que tout ce qui est surnaturel est forcément spirituel. Non. Ce qui est spirituel est surnaturel, mais le surnaturel de Dieu est le spirituel de la vie de l'esprit. Tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément de Dieu. Il faut bien s'en souvenir. C'est ainsi que travaillent les sorciers, les occultistes, ils travaillent dans le surnaturel. Mais dans le surnaturel qui n'est pas de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, qui est des ténèbres. Alors, j'aimerais poser une question très claire. Qu'est-ce qu'un croyant hérite, obtient par la régénération? On a parlé de la chair. C'est donc tout ce qui est de la vie naturelle. Et vous vous souvenez qu'on avait vu ensemble ce chapitre 7 des Romains, au verset 14, 17, 18, le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. Le péché, c'est-à-dire la puissance de péché ou le moi, et le moi, c'est ce que l'on appelle communément la vie propre. Et là, il n'y a pas de vie spirituelle dans la vie propre. C'est vraiment pour le croyant qui veut comprendre ce qu'est la vie spirituelle, il doit être au clair au sujet de ces deux éléments de la chair. Le péché et le moi. Le péché et le moi. Le péché et le moi. Jésus va traiter de façon différente la question de non-péché et celle de non-personne. En fait, il ne faut qu'un moment au pécheur pour triompher complètement du péché. Vous êtes d'accord? Il suffit de la foi, savoir que ses péchés sont pardonnés, et ça y est, c'est vraiment qu'un moment pour être triomphant. Mes péchés sont pardonnés. Dieu ne m'impute plus mes péchés. Mais pour répudier le moi, il faut toute une vie. Voyez la différence? Voyez la différence? Ce n'est que sur la croix que Jésus a porté mes péchés. Mais c'est toute sa vie qu'il s'est renié lui-même. Et c'est notre modèle. Il doit donc en être ainsi pour nous. Donc il y a une situation, j'irais dire, légal, un fait légal qui est fait. Le péché a été effacé à la croix. Je le crois, c'est une réalité, c'est un fait. Et Satan peut venir me dire tout ce qu'il veut. Le fait même d'avoir accepté Jésus-Christ comme mon sauveur fait que mon péché est pardonné. Toute ma vie de péché est pardonnée. Mais par contre, et on le voit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 24, où l'apôtre Paul va nous expliquer cette relation entre la chair et le croyant. Il nous dit que, d'une part, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Et oui, quand il se mort avec Christ, eh bien, la chair est morte avec ses passions et ses désirs. Le jour même où nous sommes identifiés avec le Seigneur Jésus, notre chair est crucifiée. C'est fait. Alors, on pourrait peut-être penser, si le Saint-Esprit n'était plus là pour nous instruire, que la chair n'est plus là. Mais n'a-t-elle pas été crucifiée? Eh bien non. Car la lettre nous dit d'autre part, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. » Chapitre 5, versets 16 et 17. Alors, ici il nous est dit clairement que celui qui appartient à Jésus-Christ et qui a reçu donc la vie de l'Esprit-Saint, a encore la chair en lui. Non seulement elle existe, mais elle est décrite comme singulièrement puissante. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Que ces deux références bibliques, elles sont en contradiction. Vous savez très bien que la Bible n'a pas de contradiction, même ce qui nous apparaît contradiction. Alors, le verset 24 du chapitre 5 des Galates souligne le péché de la chair, tandis que le verset 17 souligne le moi de la chair, c'est-à-dire la vie propre. N'oubliez pas, la croix de Christ traite notre péché, le péché. Et le Saint-Esprit, par la croix, traite la vie propre à chaque instant de notre vie. Par la croix, Jésus-Christ délivre complètement le croyant de la puissance du péché pour que le péché ne règne plus. Nous sommes d'accord. Mais le Saint-Esprit, qui habite le croyant, maintenant qu'il a cette vie nouvelle, le rend capable de surmonter chaque jour cette vie propre, naturelle, qui cherche évidemment à pécher, et de lui obéir parfaitement. Encore une fois, la libération du péché, c'est un fait accompli à la croix. La libération de la chair doit être une expérience quotidienne. Vous comprenez? L'homme qui est né de nouveau possède une vie nouvelle qui exige de lui qu'il surmonte la loi de la chair pour obéir à cette nouvelle vie. La vie de Dieu, elle est absolue. La vie de Dieu doit obtenir sur l'homme une maîtrise complète. Dès que la vie de Dieu entre dans l'esprit de l'homme, elle l'oblige à abandonner son ancien maître, qui est le péché, et à se soumettre entièrement au Saint-Esprit. Comprenez la prière du Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. J'aime bien dire la chose un petit peu différemment, que ta volonté soit faite, F-E accent circonflexe, T-E, qu'elle soit une fête, et qu'elle s'accomplisse dans ma terre, parce que mon corps, ma chair, est faite de la poussière de la terre. Alors, la libération du péché, c'est un fait qui est accompli. Je le répète, la libération de la chair doit être une expérience quotidienne. Notre volonté n'est que partiellement renouvelée par la nouvelle vie que nous avons. C'est vrai que nous avons choisi, nous avons fait un choix. Ce choix qui est placé devant tout homme, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Lorsque nous choisissons la vie, notre volonté est partiellement déjà libre, puisque nous avons été capables de choisir la vie. Mais elle est partiellement renouvelée, notre volonté. Et notre volonté fait partie de notre âme, fait partie de ce qui est donc notre chair, et notre volonté reste attachée au péché et au moi. Et bien sûr, il faut le reconnaître, dans de nombreux cas, notre volonté incline vers le péché. Alors, inévitablement, une grande bataille va éclater entre la chair et la nouvelle vie, entre la chair et l'esprit. Vous savez bien que Jésus a dit qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais qu'il était venu apporter l'épée. Et oui, il est venu apporter l'épée de l'esprit, cette épée de l'esprit qui, selon Hébreux 4:12, va séparer notre âme de notre esprit. La parole de Dieu, Dieu qui parle, c'est un glaive à deux tranchants, c'est cette épée de l'esprit qui va séparer. Jésus est venu apporter cette épée qui est la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu. Donc, nous avons bien saisi. La chair exige une souveraineté pleine et entière, mais il en est de même de notre vie spirituelle. Et notre vie spirituelle, c'est la vie de Dieu qui nous est donnée dans notre esprit, ce nouvel esprit. Et notre esprit va entrer en lutte, en combat. Et c'est un combat à mort. Notre chair doit mourir. La chair, elle tient à avoir l'homme attaché à elle pour toujours, tandis que la vie spirituelle, la vie de Dieu, tient à l'avoir attaché au Saint-Esprit pour toujours. La chair et la vie spirituelle diffèrent sur tous les points. La nature de la chair, c'est celle du premier Adam. La nature de la vie spirituelle, c'est celle du second Adam, de Jésus-Christ. La chair concentre tout sur la vie propre et la vie spirituelle concentre tout sur Christ. Le désir de la chair, c'est de conduire l'homme au péché, mais le soupir de la vie spirituelle, c'est de le conduire à la justice. Nous soupirons après cette relation avec Dieu. Chacun de nous, nous avons ce désir d'avancer avec le Seigneur. Nous avons ce désir, nous aspirons à vivre des choses authentiques. Nous aspirons à vivre la vie de Dieu. Et tant que cette aspiration n'est pas l'essentiel de notre vie, ben notre vie sera toujours partagée. Et un croyant qui ne réalise pas ce qu'est le plein salut de Christ sera continuellement vaincu dans cette lutte. Mais gloire à Dieu. Et on peut s'écrier, comme l'apôtre Paul l'écriait, s'écriait dans Romains 8, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Jésus-Christ, gloire à Dieu, lui l'a fait à la croix, pour chacun de nous, pour chacun de vous. Amen.